France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
C'était le 13 novembre, c'était il y a bientôt 10 ans. Alors que la France s'apprête à commémorer les attentats qui l'ont frappé en 2015, comment vivre tous ensemble cette réminiscence ? Nous avons tous gardé un souvenir prégnant des circonstances où nous avons appris que des commandos répandaient la mort à Saint-Denis et dans les rues de Paris, à la fois aux terrasses des cafés et dans la salle du Bataclan. Mais que la mémoire du souvenir flash soit en partage ne signifie pas nécessairement qu'elle ait précisément le même contenu pour chacune et chacun d'entre nous, ni que son empreinte soit statique. Comment construire, nourrir et entretenir une mémoire collective à partir de celle qui s'imprime intimement dans les consciences individuelles, celles des victimes physiques et psychiques, des endeuillés, des témoins, et de toutes celles et ceux qui, à Paris et ailleurs, ont été marqués en temps réel par cet événement traumatique. Le traumatisme, telle est en effet la notion que nous souhaitons interroger aujourd'hui. Que reste-t-il des blessures collectives quand les années, en défilant, semblent entraîner le passé dans le passage du temps ? Dans quelle mesure la dynamique mémorielle du 13 novembre a-t-elle évolué au cours de ces 10 dernières années, au gré des mutations de la société française et du monde ? Est-il enfin possible de penser, au double sens du terme, penser avec un A pour guérir et penser avec un E pour réfléchir, cette souffrance collective avec le recul ? 13 novembre, 10 ans après, comment sortir du traumatisme ? Voici la question douloureuse et ô combien difficile que nous tâcherons d'explorer sans préjugés, aux côtés de l'écrivain Laurent Godet, de la sociologue Sandra Wabian et de la psychologue Jessica Trante.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Bonjour Laurent Godet.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur d'une œuvre importante depuis notamment la mort du roi Tsongo et le soleil d'Escorta pris Goncourt 2004, et vous signez une fiction inédite sur France Culture, Terrasse ou notre long baiser si longtemps retardé, adapté par Volodia Serre de votre récit éponyme qui avait été publié un petit peu avant chez Actes Sud, une fiction à retrouver dès à présent sur le site et l'application de Radio France. Alors vous nous parlez depuis Brive et nous remercions nos confrères de France Inter et notamment Benjamin Thuot d'assurer la liaison. Bonjour Sandra Wabian.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice générale du CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, spécialiste de la cohésion sociale, membre du programme 13 novembre et auteur de l'ouvrage « Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015 » qui rassemble 5 chercheurs aux éditions Flammarion. Et bonjour Jessica Trante.
Bonjour Nathan Devers.
Vous êtes psychologue clinicienne, maîtresse de conférences à l'université de Caen, membre de l'unité 1077 de l'INSERM et co-directrice de l'ouvrage « Comment sortir du traumatisme au-delà du déterminisme » paru tout récemment aux éditions Odile Jacob. Alors j'évoquais il y a un instant le fait que le 13 novembre suscite ce qu'on appelle un souvenir flash, et dans votre ouvrage Sandra Wabian vous questionnez cette notion. Le souvenir flash, c'est la mémoire des circonstances précises dans lesquelles un individu a appris que tel ou tel événement survenait. C'était le cas par exemple du 11 septembre aussi, et vous montrez dans votre livre que en 2024, 84% des Français ont gardé ce souvenir flash précis du 13 novembre, c'est-à-dire que les gens se souviennent exactement est-ce qu'ils l'ont appris à la télévision, à la radio, de telle ou telle manière. Et pourtant, dans votre ouvrage, vous soulignez que le propre de la mémoire collective est qu'elle est sélective et qu'elle procède aussi parfois par élimination ou par hiérarchie. Comment commémorer le drame du 13 novembre sans rentrer dans les biais de cette sélectivité ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la mémoire d'une société, de la même manière que pour un individu, elle est forcément sélective. On ne peut pas se rappeler de tout. Et donc, une société va finalement faire des choix qui vont prendre du sens, qui vont l'aider à constituer son identité, à représenter les valeurs qu'elle défend. Et donc, dans le cas des attentats terroristes, en fait, de la séquence 2015-2016, la mémoire s'est en fait concentrée, elle s'est condensée sur les attentats du 13 novembre et à l'intérieur de ces attentats sur le Bataclan qui sont devenus en fait emblématiques de tous les événements qui ont pu avoir lieu, soit avant avec les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, soit après avec l'attentat de Nice, la mort de Samuel Paty, etc. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas touchés, hein, il ne s'agit pas de faire une concurrence des victimes, mais en fait on fait une sorte de choix pas forcément conscient, mais qui s'explique par un certain nombre d'événements. Et notamment, ce qui compte dans la mémoire collective, c'est aussi comment les institutions en parlent. Et là, en l'occurrence, très vite, il y a eu la déclaration d'un état d'urgence. Alors que si on repart quelques années auparavant, dans les attaques de Toulouse, il y avait eu un discours politique sur un loup solitaire. Et donc finalement, les gens s'étaient aussi dit c'est un déséquilibré qui s'est réveillé. Alors que là, il y avait vraiment l'idée qu'il y avait un avant et un après. Il y a aussi une différence qui s'est faite sur les cibles des victimes. C'est-à-dire que malheureusement, pour les attentats avant le 13 novembre, même si les gens ont pu être touchés, notamment sur la question de la liberté de la presse pour les attentats de Charlie Hebdo, il y avait le sentiment que c'était des publics particuliers, des journalistes dans leur profession, des policiers ou des personnes de confession juive. Donc malheureusement, on est un peu habitué à ce qu'elles puissent être les cibles de victimes. Alors que pour le 13 novembre, la population a eu le sentiment que elle aurait pu être touchée, que ça aurait pu être eux, ça aurait pu être leurs enfants. Et donc, il y a eu un concernement beaucoup plus important. Et ça, mélangé au fait qu'il y avait énormément de morts, qu'il y a eu des attaques coordonnées, que c'était à Paris, qui est aussi une figure emblématique de la France, et que beaucoup de gens étaient devant leur poste de télévision au moment des événements, tout ça a fait que c'est devenu un événement très important qui a marqué. Et encore 10 ans après, on a des taux très importants de gens qui nous disent que c'est vraiment l'événement qui les a le plus marqués, des souvenirs qui sont importants et qui ont pu aussi, on y reviendra sûrement, être avivés par le procès. Donc la question de la mémoire collective, c'est à la fois la somme des mémoires individuelles, mais c'est aussi le discours qui est porté sur un événement par les politiques, par les médias. Il y a eu beaucoup le mot guerre qui a pu être mobilisé, et également les moments de commémoration, comme là on est en train de les vivre.
Jessica Trante, j'ai peut-être commis une erreur dans mon texte introductif parce que j'ai dit le traumatisme. Or, il y a deux échelles du traumatisme, l'échelle individuelle, qui est, me semble-t-il, plurielle, et l'échelle collective. Comment se superposent ces deux niveaux de traumatisme ?
Bien sûr, donc, l'une des complexités de ce sujet, c'est qu'on emploie un seul terme, traumatisme, qui désigne en fait une réalité plurielle et complexe, avec notamment deux niveaux d'études qui sont, dans une certaine mesure, incommensurables. D'une part, le niveau, l'échelle, disons, du collectif, avec, comme nous le rappelait Sandra, la problématique de la mémoire collective, de comment commémorer, qui touche aussi à la question de l'État, des politiques publiques, des procès, de la justice, des procès qui se sont clôturés récemment. Et d'autre part, le niveau de l'individu, du sujet, dans sa singularité, qui se souvient, non pas des faits dans leur réalité historique, mais d'un événement, qui est venu rencontrer et heurter sa subjectivité aussi par rapport à son histoire. Donc je pense que l'une des complexités de ce sujet, c'est de jongler entre ces deux niveaux incommensurables, avec ce paradoxe que le traumatisme désigne à la fois une réalité sociale, ça ce sont les travaux de Richard Rechman et de Didier Fassin qui ont contribué à montrer comment, à partir des années 1980, le traumatisme est devenu un objet social. Et notamment avec l'émergence de la catégorie sociale de victime, une reconnaissance, alors qu'autrefois, les victimes étaient plutôt l'objet d'une condamnation, du soupçon, de l'opprobre. On l'a vu pendant la Première Guerre mondiale, les soldats qui revenaient avec des névroses de guerre étaient décriés comme lâches, voire condamnés pour des faits de désertion. Il y a eu un renversement, un changement de paradigme, une mutation sociale dans la façon de percevoir les victimes. Donc ça, c'est un enjeu qui se situe au niveau du collectif. Mais d'autre part, reste la question bien plus complexe et qui se joue à un tout autre niveau, qui est celle du sujet dans sa rencontre avec un événement et dans le souvenir que chaque sujet dans sa singularité peut avoir du 13 novembre.
Laurent Godet, cette question-là, cette dialectique entre l'intimité et la collectivité, je crois qu'elle est au cœur de ce récit, Terrasse, qui est un récit structuré de façon polyphonique, puisque vous donnez non pas une voix, mais des voix à toutes sortes de personnages qui ont pu vivre le 13 novembre de façon différente, des amoureuses qui s'apprêtent à se retrouver ce soir-là, des jumelles qui vont célébrer leur anniversaire, une mère qui s'autorise à sortir sans sa fille, des policiers, des gendarmes, enfin des policiers, des pompiers, pardon, etc., etc. Il y a un passage que j'aimerais juste citer au tout début de votre livre, où une personnage prend la parole. « Je me lève moi aussi, écrivez-vous, une parmi tant d'autres. Peu importe mon nom, Lisa, Prune ou Leïla, nous sommes tant. À cette heure, nous sommes inconnus les uns des autres. Personne n'a de nom. Comment avez-vous réussi, Laurent Godet, à construire ce cœur polyphonique à partir de la pluralité des récits et des histoires ?»
Non, en fait, vous avez raison. Cette question du « nous » est la question qui m'a probablement le plus accompagné pendant l'écriture de ce texte-là. C'était à la fois un enjeu par rapport à ce que j'avais envie de dire de cette tragédie, et puis aussi un enjeu de positionnement de mon écriture, en fait. C'est pas évident pour un romancier de s'emparer d'un sujet pareil. C'est très impressionnant. Et puis moi, je n'ai pas l'habitude de travailler dans ce rapport au réel. Et finalement, la choralité, le fait d'être face à cette pluralité de personnages, de voix, m'a amené à faire un travail de montage, d'une certaine manière, de me poser des questions de, voilà, quand est-ce que je zoome, quelle silhouette je creuse, laquelle je laisse passer sans presque l'effleurer, de gommer la notion même de personnage, parfois, pour n'avoir que des voix, comme dans un chant. Tout ça m'a permis, et en fait, a facilité pour moi le travail, c'est-à-dire que ça a mis une certaine distance avec le réel. J'étais pas dans un cadre de lecture naturaliste ou réaliste ou documentaire, j'étais face à un champ, voilà, j'ai pas d'autre manière de le dire, et c'est vrai que ça correspondait aussi à l'endroit qui me semblait juste, étant donné que je suis romancier et pas journaliste ou même pas romancier ayant pratiqué souvent et volontiers une écriture documentaire. Donc c'est aussi par rapport à mon espace d'écriture, j'avais besoin de moments de liberté, et juste pour finir avec cette notion de liberté qui est un peu particulière quand on s'attaque à cette nuit-là en écriture, parce que je n'ai pas envie non plus d'inventer quoi que ce soit, j'ai pas envie de sortir du cadre de ce qui s'est passé, ce serait irrespectueux, ce serait presque obscène. Donc du coup, les marges, elles sont à trouver de manière infime, mais je prends juste un exemple, c'est vrai que j'ai pas eu envie d'écrire le mot Bataclan, par exemple. J'ai pas eu envie de citer le nom des différents restaurants qui ont été frappés cette nuit-là aux terrasses, parce que j'avais besoin de cette petite distance, et je crois que ça me permet aussi d'inviter un tout petit peu je dis fiction, mais encore une fois, il s'agit pas du tout d'inventer quoi que ce soit, il s'agit juste d'inviter à une promenade qui peut avoir un autre mouvement que celui du réel. Et de fait, mes personnages vont glisser durant toute cette nuit, parce que nous sommes cette foule-là, et que c'est ce qui m'intéressait d'essayer de faire vibrer. Oui.
Alors, cette promenade un petit peu à côté du réel, ou en tout cas cette prise de distance avec le récit et le souvenir journalistique du 13 novembre, elle était au cœur d'une série dont tout le monde se souvient, En thérapie. Sur Arte, et récemment un documentaire qui s'appelle En thérapie, et après a été réalisé, qu'on peut retrouver visionné en ligne et qui sera à l'antenne sur Arte jeudi 13 novembre à 22h40, revient sur l'effet de cette série sur notre conscience collective et sur la manière dont on a pu essayer de raconter autrement le traumatisme.
Je voulais vous remercier parce que j'ai un couple de patients qui étaient au Bataclan qui ne se sont décidés à venir me voir qu'après avoir vu la série. Et ça, c'est déjà une grande victoire.
C'est le retour du psy le plus célèbre de France, le docteur Daillon, héros de la série En thérapie.
La série la plus regardée de l'histoire de la chaîne Arte.
Avec une équipe de brillants auteurs, scénaristes, et chaque jour un réalisateur de talents différents.
Allez-y, parce que si vous commencez, vraiment, vous allez accrocher.
L'ADN de la série est comment on survit ou comment on réagit à un trauma collectif. Et cette phrase qui a été très importante pour nous, quand Hagai, en approfondissant peut-être l'étude avec lui et avec les scénaristes, était « les failles des personnages trahissent les failles d'un pays ».
Diriez-vous qu'en moyenne, les gens que vous avez traités vont un peu mieux, beaucoup mieux, sont soignés ou que rien n'a changé ?
Les failles d'un personnage traduisent, reflètent celles d'un pays. Je crois que cette phrase, elle est au cœur, Sandra Wabian, de l'étude à laquelle vous avez notamment participé, l'étude 1000 et du programme 13 novembre, qui associe sciences du vivant et sciences humaines et sociales, pour poser la question, des questions multiples. Comment la mémoire s'estompe-t-elle ou persiste-t-elle avec le temps? Quelle est la place du 13 novembre dans cette mémoire? Que retient-on de ces événements? Et je tiens à le souligner parce que c'est la première étude, et vous le soulignez dans votre ouvrage, la seule analyse récurrente qui appréhende un événement dans sa dynamique mémorielle, qui plus est pendant sur le temps long, sur les 10 ans. Pas en quelques mots, mais si vous deviez la résumer, quel a été, selon vous, l'impact du 13 novembre au fil de ces 10 années sur la société française?
Alors déjà, juste un mot pour dire qu'il y a en fait dans ce programme de très très nombreuses études. Donc il y a effectivement des gens qui ont été filmés, témoins, victimes, personnes éloignées pendant 3 heures à 3 intervalles, donc 1000 personnes, etc. Et puis on a aussi mené au CREDOC une enquête en population générale auprès de 3000 Français représentatifs de la population générale. Et là, on l'a fait à 8 reprises. Donc c'est assez inédit de suivre dans le temps comme ça l'impact à la fois mémoriel, mais aussi les perceptions. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que, c'est quelque chose que connaissent bien les historiens, mais c'est qu'on regarde le passé avec les lunettes du présent. C'est-à-dire que, notamment sur les causes de ces attentats, comment est-ce qu'on comprend, on essaye d'apporter du sens à ces événements. Eh bien, au début, il y avait un regard qui était porté en se disant qu'on ne comprenait pas bien, et une part importante de la population disait que c'est des actes de personnes déséquilibrées. Et puis, au moment de la crise migratoire, là, c'est l'idée qu'il y a trop d'immigration en France qui a expliqué ces attentats du 13 novembre. Et aujourd'hui, la première cause qui est évoquée, ce sont les tensions religieuses et culturelles dans la société française. Et donc, on voit bien, en fait, que une société, elle évolue, les sujets qui la préoccupent évoluent, et on regarde le passé avec cette perception. Et dans les effets, en fait, de ces attaques sur la société française, eh bien, je dirais que malheureusement, le terrorisme a un peu atteint son but, puisque parmi les effets, il y a notamment la peur, qui est encore très présente aujourd'hui. Une personne sur deux qui nous dit que ça a créé de la peur dans la société française, donc des taux équivalents à ceux qu'on a mesurés juste après les attaques. Et puis la deuxième conséquence, c'est un affaiblissement de la cohésion sociale, puisque on a vu monter une forme de crainte de l'autre, qui d'ailleurs est beaucoup plus forte chez les gens qui étaient éloignés des attentats que chez ceux qui étaient plus proches, qui pouvaient avoir quelqu'un qui connaissait une victime dans leur entourage. Donc la peur de l'autre, la méfiance qui progresse dans notre société, qui évidemment facilite pas le compromis, qui facilite pas le vivre ensemble. Et puis il y a une société qui est aussi plus sécuritaire. Ça revient dans nos enquêtes comme une des conséquences principales. Donc on s'est habitué aussi à ouvrir nos sacs quand on va dans un supermarché, avoir des mesures d'état d'urgence qui ont pu être répétées dans le temps. Et notamment qui sont relativement acceptés des jeunes générations. C'est-à-dire ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis des mesures sécuritaires sont finalement les seniors, les 68-ards, qui se disent que ça peut être une menace contre les libertés individuelles, alors que les jeunes ont plutôt intégré ça comme étant finalement une manière de vivre au quotidien. Donc des enjeux quand même de cohésion sociale et d'accompagnement de la société pour aussi se relever face à ce type d'attaque qui vise en fait à affaiblir la société.
Puisque vous parlez des jeunes, j'aimerais citer une note de recherche de l'historien Sébastien Ledoux, qui l'adressera la semaine prochaine au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Recherche à l'occasion des 10 ans du 13 novembre. Et il se penche notamment sur la question de la santé mentale des jeunes, en montrant que les attentats et les risques terroristes ont eu un effet, et ont un effet, sur la vulnérabilité psychique des jeunes. Et notamment, il cite un certain nombre d'enquêtes qui établissent que depuis plusieurs années, on a une forte augmentation des troubles anxieux et dépressifs chez les jeunes de 11 à 30 ans, soit précisément la classe d'âge qui a vécu les attentats et la prévention des risques terroristes en milieu scolaire depuis 10 ans. Jessica Trante, votre unité de recherche participe à un programme qui s'appelle Remember Care pour étudier la transmission du récit du 13 novembre au sein des familles et pas seulement des, ce qu'on appelle des victimes directes du 13 novembre. Quelle importance a ce programme et surtout qu'est-ce qu'il a permis d'observer ?
Alors, le programme que vous mentionnez, donc Remember Care, fait partie du programme de recherche 13 novembre, qui est un programme beaucoup plus vaste, interdisciplinaire, qui mobilise plus de 200 chercheurs, à la fois du côté des sciences humaines et aussi des neurosciences, avec un volet donc plutôt sur la partie psychopathologique, disons, qui étudie les conséquences de la mémoire traumatique, notamment chez les rescapés des attentats, mais aussi chez des sujets donc témoins, des cas contrôles qui n'ont pas été exposés à ces événements. Ce programme, donc Remember, s'est déroulé donc à trois périodes, donc 2016, 2018 et 2021, qui a eu pour visée de recueillir donc des éléments d'imagerie cérébrale, mais aussi d'évaluer la psychopathologie chez les sujets qui ont eu des symptômes post-traumatiques. Alors, il faut rappeler quand même que ce n'est pas le cas de tous les rescapés. Il y en a à peu près un tiers, donc plus d'un an après les événements, continuent à avoir des manifestations psychopathologiques importantes, mais d'autres sujets non. Et ce que ce programme cherche à étudier, c'est cette divergence dans les manifestations psychopathologiques post-traumatiques. Et suite à ce vaste programme Remember, a été lancée une étude, Remember Care, qui est portée par Jacques Dayan et Bérangère Guiry, donc, qui est en cours actuellement et qui vise à explorer la transmission de la mémoire à l'échelle cette fois des familles, donc à l'échelle disons de l'intime, pour comprendre aussi quelles répercussions ces événements ont eu sur les enfants, à la fois des victimes et des rescapés du 13 novembre, mais aussi en population générale. Donc c'est une étude qui se déroule actuellement et pour laquelle on cherche aussi encore des participants en population générale, donc des témoins. Donc ça concerne les enfants qui étaient déjà nés au moment des attentats, donc il y aurait entre 0 et 17 ans, disons, aujourd'hui. Donc, et cette étude vise à expliquer et à essayer de mettre en évidence quels sont les mécanismes de transmission qui se jouent à l'intérieur d'une famille aussi, des parents aux enfants, au sujet de cette mémoire qui peut être en effet une mémoire traumatique.
Il y a peut-être un aspect dans la transmission ou dans l'évolution de ce traumatisme depuis 10 ans qui peut être souligné dans votre livre, Laurent Godet. Moi, ce qui m'a profondément marqué à sa lecture, c'est la manière dont vous essayez de partir d'une description d'un quotidien dans toute sa banalité, dans toute sa trivialité, dans toute son insouciance, en montrant, alors vous parlez beaucoup du dieu ou du démon du hasard, que le hasard va faire que tel individu va être affecté dans sa chair, tué, et que le hasard va faire que ce quotidien va se désintégrer. Et puis, il y a un passage dans votre livre où vous montrez qu'après le drame, dès les lendemains et dès les jours qui suivent, eh bien, le quotidien doit progressivement revenir et que ça fait peut-être partie de la douleur elle-même.
Bien sûr, au début, il y a de la sympathie sur le visage de ceux qui nous entourent.
Au bureau,
à la boutique,
à l'école,
à l'usine,
sur les chantiers.
Mais le monde repart. Forcément.
Les gens reprennent le cours de leur vie. Et pour nous, tout va trop vite. Tout est futile.
On voudrait ne parler que de nos enfants, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ne sont plus. Nous voulons voir des larmes couler, entendre des voix se briser. C'est ce que nous cherchons.
Qu'on nous dise qu'ils furent aimés.
Que la vie ne sera plus jamais la même.
Qu'ils ne seront jamais oubliés.
Et puis le temps passe encore. Pour nous, rien ne change.
Toujours le numéro de téléphone dans le répertoire que l'on ne peut pas se résoudre à effacer.
Toujours la chambre avec ses affaires qu'on n'a pas réussi à déplacer.
Toujours les albums photos qui nous aimantent et nous brûlent à la fois.
Toujours le vide. Mais que pour nous, car le monde va.
Alors, nous nous éteignons.
Nous répudions tout ce qui nous entoure.
Qu'on nous laisse tranquille.
Laurent Godet, comment avez-vous essayé d'exprimer ce paradoxe de la vie qui continue, avec de l'empathie, avec du soin, de la sollicitude envers les victimes, et en même temps que cette continuation de la vie, même dans sa plus grande humanité, a quelque chose d'éminemment douloureux.
Ben, je me suis souvenu de mes propres moments de deuil, à dire vrai. C'est des moments où on expérimente cette espèce de drôle de chose qui fait que certaines vies sont soudainement à l'arrêt. Je pense que pour les gens qui ont été frappés très directement cette nuit-là, quelque chose s'est arrêté. Et que d'abord, il n'est pas évident que ça reparte. Et puis si ça repart, et il faut le souhaiter, ça repartira. Mais à quel rythme? Tout le monde ne va pas à la même vitesse par rapport à la reprise de la vie. Et je crois que c'est ce qui peut d'ailleurs être extrêmement douloureux, effectivement, c'est que le monde va repartir, les gens vont recommencer à sourire, à aller aux terrasses des cafés, à avoir un peu moins peur, à moins en parler aussi. Et pour ceux qui ont été frappés en toute première ligne, pour ceux qui sont endeuillés, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui se battent par rapport à de la rééducation, il y a l'impression que le monde va trop vite, que quelque chose a redémarré, alors que nous, on est à l'arrêt. Je dis nous, je n'étais pas parmi les victimes ce soir-là ou les proches des victimes. Mais encore une fois, c'est, je crois, que ce qu'on peut expérimenter dans n'importe quel deuil. Au fond, à un moment donné, le deuil nous sort du monde un petit peu. C'est des moments très flottants. C'est des moments où on a l'impression d'être sur le bord de quelque chose. Et on voit le monde reprendre. Alors, la difficulté, c'est que dans le cas du 13 novembre, je crois que, et ça a été dit tout à l'heure, par les autres invités, la société française n'a pas repris totalement. On est encore, d'une certaine manière, dans une espèce de vie de cela. Notre rapport à la sécurité, notre rapport à la peur, à l'anxiété, à la prise de risque a profondément changé. Et moi, qui ai un petit peu d'âge maintenant, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est très important d'avoir plusieurs générations par rapport à ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des portiques à l'entrée des salles de spectacle, des choses comme ça, et du fait que peut-être les 68ards ont plus de mal que les jeunes gens. Évidemment, les jeunes gens n'ont connu que ce monde-là, mais c'est très important d'avoir des gens peut-être plus âgés qui disent que... Et moi, je me souviens d'une époque où j'allais au théâtre et qu'il n'y avait pas de passage par des portiques, de fouilles à l'entrée. Et il faut souhaiter que ça redevienne un jour comme ça, qu'on puisse à nouveau connaître l'insouciance. Donc peut-être que le dialogue entre générations de ce point de vue-là peut être intéressant. Il ne s'agit pas d'être réfractaire aux règles, mais simplement de continuer à garder comme boussole que ça n'a pas toujours été comme ça et qu'on peut espérer revenir à un moment où il y aura un peu d'insouciance. Ça me semble essentiel. Je me souviens très bien, et vous vous souvenez sûrement aussi de la même chose, dans un premier temps, après le massacre de cette nuit, du 13 novembre, on a tous dit qu'on allait retourner aux terrasses des cafés. Mais on l'a dit de manière militante, de manière combative, et c'était très bien, c'était important. Comme un bras d'honneur fait aux terroristes, en fait. On y retournera et on boira un petit blanc aux terrasses des cafés à Paris parce que c'est notre mode de vie, parce qu'on le veut, parce qu'on veut pas, justement, abdiquer de quelque chose de précieux. Mais au fond, la vraie victoire, c'est pas tant d'y retourner comme ça. La vraie victoire, c'est d'y retourner avec insouciance. C'est d'y retourner et de ne même plus y penser. Alors, dire ça, et moi je l'assume, ça peut être très violent pour les victimes ou pour les gens qui sont encore dans la lenteur de se réparer. Et c'est là où, effectivement, il faut être à l'écoute des différentes vitesses des uns et des autres, je pense.
C'est peut-être en effet un des paradoxes, Sandra Wabian, du 13 novembre. Vous parliez tout à l'heure des représentations qu'on peut se faire de tel ou tel drame et de la signification de tel ou tel drame. En effet, à la différence, par exemple, de Charlie Hebdo, ce qui a été perçu comme étant attaqué, c'était ce mode de vie, cette insouciance, cette vie en terrasse. Et peut-être que dans les étapes du deuil, en tout cas, dès le début, il a été dit « nous allons continuer ». À agir comme nous agissions avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans cette réaction-là ?
Ben, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'en fait, une société, elle essaye d'avoir ce qu'on appelle une identité narrative, c'est-à-dire de se raconter, d'expliquer qu'est-ce qui est important pour elle, au travers aussi des événements qu'on va commémorer ou qui vont la marquer. Et donc... ce qui explique aussi que le 13 novembre ait eu cet impact, c'est effectivement que la valeur de la liberté individuelle, qui est une des valeurs les plus structurantes de notre société, ait été attaquée au travers des modes de vie. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère ont été un peu moins... alors que moi, j'aurais pu m'attendre, vu les manifestations, les prises de parole des politiques, des politiques du monde entier qui se déplacent, on aurait pu penser que ça allait être cet événement-là qui allait faire un avant et un après. Mais en fait, sur les événements de Charlie Hebdo, il y a eu un peu de polémique. Il y a eu une partie de la population qui disait « je ne suis pas Charlie ». Et donc, finalement, la société a plutôt choisi un événement où là, il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de dissensus pour se dire « bah oui, voilà ce qui nous rassemble aussi, c'est cette liberté individuelle ». Et évidemment, il y a du paradoxe, de la même manière que à la fois, il faut se souvenir pour une société, mais il faut aussi être en capacité d'oublier, parce que rester dans le traumatisme traumatisme toute sa vie et réactiver le traumatisme avec des commémorations sans arrêt, c'est pas forcément non plus positif. Donc c'est un équilibre qui est vraiment très très subtil.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Dans cet équilibre très subtil entre le fait de continuer à vivre et à se représenter la vie comme avant le traumatisme ou de changer complètement, Laurent Godet, vous avez écrit un poème qui s'appelle « Le serment des cafés » dans un recueil de poèmes qui s'appelle « De sang et de lumière » paru en 2019, où vous faites parler non pas seulement les victimes du 13 novembre, mais les victimes des attentats terroristes à travers le monde. Et ces victimes-là, vous imaginez qu'elles font un serment. Je vais en lire quelques passages. Dans le secret de nos nuits partagées, nous faisons le serment des cafés. Maudits soient les hommes qui prient Dieu avant de tuer. Ils ne nous feront pas flancher. Leur haine, nous la connaissons bien. Elle nous suit depuis toujours, nous escorte depuis des siècles, avec ces mots qui sont pour eux des insultes et pour nous une fierté. Mécréants, infidèles, je les prends ces noms, juifs, dépravés, pédérastes, je les chéris, cosmopolites, libres penseurs, sodomites, cela fait longtemps que je les aime ces noms, parce qu'ils les détestent, nous serons toujours du côté de la fesse joyeuse et du rire profanateur. À travers ce poème, dont je lis quelques vers, j'ai l'impression que vous prenez résolument le parti pris de dire « Cette épreuve-là pose une question politique, qui est celle de comment réagir à un traumatisme par l'humanisme » ou par un excès de, ou une réponse violente à la violence qu'on subit, et que vous défendez résolument cet humanisme-là.
Complètement. Oui, oui, bien sûr. C'est un des enjeux d'ailleurs extrêmement difficiles, parce que l'humanisme se veut plutôt du côté de la tolérance, de l'écoute, et est très désemparé et désarmé quand il est attaqué de manière brutale. Mais au fond, je pense que il faut le redire, l'humanisme a toujours été détesté, haï, bousculé, meurtri. On a brûlé des gens pour leurs pensées, on a torturé des gens, on les a exécutés. Et c'est vrai que ce poème qui a été écrit assez vite après, dans les mois qui ont suivi, donc qui est aussi un poème de réaction, qui est un poème de tentative d'entrer dans le combat, puisque c'était tout de même un combat qui se jouait et qui peut-être encore se jouera, un combat justement sur qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher. Ben, c'était ma manière à moi de prendre la parole et de le dire effectivement en retournant ce qui est une insulte avec une certaine fierté. Moi, je n'ai pas envie d'être autre chose que cela. J'ai été élevé comme ça. Je pense que mai 68, c'est pas une insulte. Je pense que la liberté d'être athée, elle est importante. Ça veut pas dire qu'on méprise les religions. Ça veut pas dire que on impose quoi que ce soit aux autres. Mais j'ai envie de continuer à vivre comme ça. Et je pense que d'ailleurs, ce qui est très troublant, c'est que on parle du Bataclan, bien sûr. Mais quand on dézoome un petit peu sur ces années, cette dernière décennie, au fond, la liste est très longue de lieux de culture qui ont été attaqués. C'est ce que je dis d'ailleurs dans ce poème. On a évoqué Nice tout ailleurs, mais il y a l'attentat à Orlando en Floride dans une boîte de nuit. Il y a le Bardo, le musée du Bardo à Tunis. Il y a cette salle de spectacle à Moscou, le Crocus City Hall. C'est pas rien. Tout d'un coup, ce sont des lieux de collectivité, d'insouciance et de fête qui sont frappés. Ça nous appelle à une réponse qui est une réponse qui se joue à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la question de la peur et de l'autocensure qui est fondamentale. Il faut accepter de reprendre ce risque-là, sans quoi on va se priver de nos théâtres, on va se priver de nos cafés, on va se priver des concerts, on va se priver de tout ce qui fait le sel et le plaisir de la vie. Donc ouais, c'est une lutte intérieure qui me semble être évidemment politique, mais profondément intime.
Lutte intérieure, elle fait peut-être écho, Sandra va bien, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, à la manière dont vous analysez le processus de rationalisation qui suit un traumatisme, à savoir le besoin humain de vouloir donner un sens à ce qu'on a vécu. Et vous montrez dans les études que vous avez faites que parmi les différents facteurs explicatifs, certains, donc est-ce que c'était des actes de déséquilibré, est-ce que c'est perçu comme le 13 novembre comme quelque chose qui résulterait de tensions culturelles, de la politique étrangère de la France, que ces explications, vous l'avez dit tout à l'heure, ont pu évoluer avec le temps. Mais dans quelle mesure le 13 novembre a pu aussi, dans les années qui ont suivi, être invoqué pour donner lieu, pour nourrir, pour donner des armes à des discours qui prônaient précisément une rupture de cet humanisme doctrinal.
Alors, non seulement les causes évoluent avec le temps, mais elles sont évidemment pas les mêmes suivant les personnes. Et notamment, l'autopositionnement sur l'échiquier politique a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que les personnes qui vont se positionner à gauche vont plutôt dire que c'est l'échec des politiques sociales et éducatives. Et les personnes qui se situent à droite vont plutôt dire que il n'y a pas assez de forces de l'ordre et il peut y avoir trop d'immigration. Le sens qu'on fait porter à ces événements, en fait, il est aussi lié à nos propres convictions, à la façon dont on regarde le monde. Et effectivement, il y a pu avoir des prises de parole qui ont pu choquer, d'ailleurs, à une période, je rentrerai pas forcément dans les détails, mais des personnes qui vont s'approprier en fait les événements terroristes pour porter une lecture qui est leur lecture du monde, avec un effet un peu performatif, c'est-à-dire qui peuvent avoir un écho dans la société. Et par exemple, nous, on est en train de faire un travail au Crédoc, on analyse la présence des émotions dans les chaînes d'information continue, et on voit que celle-ci a augmenté de 10% depuis 10 ans, et notamment la colère a beaucoup augmenté, la présence de la colère a beaucoup augmenté dans ces chaînes d'information continue. Alors c'est toujours difficile de savoir si c'est parce que les gens sont plus en colère ou si c'est parce que les médias amplifient cette colère, hein, c'est probablement un petit peu des deux. Mais en tout cas, on a un discours qui est porté sur la question terroriste qui va, d'une certaine manière, amplifier le rejet de l'autre, en fait. Et toute la question de la colère et de la peur, c'est est-ce que j'en fais quelque chose qui va être inclusif ou qui va être exclusif ?
Est-ce que cette ambivalence-là, vous pouvez lui donner, Jessica Trante, une explication, entre guillemets, d'un point de vue, depuis une perspective psychologique. Dans votre livre, vous avez signé, coécrit avec François Ansermet, un texte, Le dépassement du déterminisme, un carrefour interdisciplinaire, où vous soulignez qu'il y a une forme d'ambivalence du traumatisme, puisque d'une part, le traumatisme correspond à l'action de revivre, c'est-à-dire de répéter un passé qui ne passe pas, et de s'en sortir en un sens prisonnier. Et de l'autre, vous opposez à ce mot « revivre » une autre signification, qui est de dire « revivre », c'est aussi l'art de renaître, de retrouver le sentiment d'être vivant, d'être relié à autrui. Et vous proposez une approche psychologique de ce dépassement du traumatisme, comme le fait de dire « essayons de comprendre le mot « revivre » plutôt comme « renaître » que comme « répéter ». Est-ce que vous pourriez revenir sur cette opposition-là ?
Oui, bien sûr. La polysémie que vous évoquez du terme revivre, elle est en fait empruntée à Frédéric Worms. Alors, j'ai entendu qu'il était la semaine dernière ici même dans cette émission pour évoquer son concept d'humanisme vital. Et je pense que c'est une notion qui peut être essentielle pour penser la sortie du traumatisme et les issues au trauma. Et surtout pour ne pas tomber dans un piège de causalité qui lierait de façon indéfectible l'événement à une issue morbide ou psychopathologique, un symptôme par exemple. Et l'un des enjeux majeurs pour la question de la sortie du traumatisme, c'est comment, en fin de compte, pour un sujet dans sa singularité, ne pas s'enfermer dans ce piège de causalité, dans ce déterminisme qui le condamnerait du fait de l'exposition à l'événement. Mais au contraire, tout l'enjeu du travail thérapeutique, c'est aussi de restaurer cette dimension du sujet et du vivant, fidèle à la conception de Georges Canguilhem, hein, qu'évoque également Frédéric Worms, qui est l'organisme vivant comme sans cesse créateur de sa propre norme. Et bien sûr que cette dimension de création, elle est vitale pour penser l'issue face au traumatisme, face à la sidération de l'événement. Et la psychanalyse, très tôt, avec Freud et ce terme qu'il avait épinglé par le nom de sublimation, avait cherché à penser cette dimension créative comme solution subjective essentielle et comme issue aussi pour le sujet.
Laurent Godet, est-ce que cette dimension-là, cette nécessité d'essayer de créer des normes et d'essayer de reconstruire une renaissance et un art de vivre autrement dans la blessure, c'est une dimension à laquelle vous avez essayé d'exprimer dans votre livre Terrasse?
Oui, je crois que j'ai essayé de faire ça, mais à dire vrai, je n'avais pas mesuré que 8 ans s'étaient passés. À l'époque, c'était 8 années. Aujourd'hui, on est aux 10 ans. Moi, j'ai eu l'impression de travailler sur Terrasse, de travailler sur un événement qui était extrêmement récent, parce que probablement, il était dans mon esprit, dans mon cœur. Enfin, j'étais encore justement sous le choc, certainement, de ces moments-là. Et c'est vraiment que quand le livre est sorti et aussi quand il a été mis en scène dans un théâtre au moment de la sortie du livre, que j'ai mesuré à quel point, parce que je me suis retrouvé face à des jeunes gens qui avaient 20 ans et qui m'ont dit « Oui, je me souviens, mais j'avais 12 ans, et donc j'ai mesuré à ce moment-là que en fait, il y avait forcément un travail mémoriel dans tout acte, le mien et celui de tant d'autres, parce que le temps passe vite, et je crois qu'il est absolument nécessaire de continuer à déplier l'événement, à le réinvestir, à le questionner, à le proposer à la vue, à le faire tourner sous les yeux des spectateurs, des lecteurs, parce qu'il y a des jeunes gens qui arrivent et pour qui c'est flou, et qu'au fond, la pire des cruautés serait de tomber dans l'oubli. Je pense qu'on parle beaucoup du traumatisme par rapport à l'événement brutal qui est venu blesser et faire saigner les corps et les esprits, mais il y a un autre traumatisme qui peut advenir, qui est celui de l'oubli, en fait, et qui ferait souffrir terriblement aussi les victimes et les proches de victimes. Et là peut-être la fiction a quelque chose à jouer, de la même manière que le travail, bien sûr, des historiens et de tous ceux qui, et des chercheurs, ne pas oublier, organiser la mémoire, l'interroger régulièrement, c'est aussi une manière de lutter contre le deuxième traumatisme, celui qui donne l'impression que le monde est passé à autre chose et qu'on est seul dans sa solitude blessée face à un monde qui ne vous considère même plus. Donc là, oui, je crois que c'est ça qui est passionnant, c'est que chaque époque va réinterroger son passé, comme le disait tout à l'heure Sandra Vabian, et que la fiction fait partie de ce mouvement-là, on réinterroge notre passé. Moi, j'ai eu envie de consacrer un an de ma vie à cette nuit-là, j'ai eu envie de penser à ces hommes et à ces femmes, d'en faire des personnages de mon petit objet de livres de papier et d'encre, parce que ça compte, que ce soit dans mon petit panthéon personnel, et je crois que ça compte pour beaucoup de gens, que ce soit dans nos mémoires actuellement. Oui.
Je me demande depuis tout à l'heure si on n'est pas en train de passer entre plusieurs registres, avec Laurent Godet, évidemment, le registre littéraire, essayer de prendre une forme de distance par rapport à cette perception journalistique du fait. On a beaucoup parlé de mémoire. Laurent Godet vient de nous parler d'oubli. Est-ce que 10 ans après, c'est trop tôt, ou est-ce que c'est un peu caricatural comme opposition, mais de réfléchir aussi sur la transition de la mémoire à l'histoire, Sandra Wabian?
Alors, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué ou très peu depuis le début de l'émission, c'est le procès qui a eu lieu. Et qui, par son ampleur, 3000 parties civiles, 300 avocats, un procès filmé pour la première fois, a aussi eu un impact sur la société française. Je crois qu'il faut souligner quand même la qualité de ce qui a été mené et l'importance que ça a pu avoir à la fois sur les victimes et également sur la société française. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mémoire, il s'agit aussi de rendre justice pour qu'une société puisse avancer.
Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion et cet échange. Merci beaucoup à Aline Biette pour la préparation de cette émission, à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde, et aussi à Benjamin Thuot de France Inter pour la liaison avec Laurent Godet.